Jean-Charlotte.
Tout est vrai, je le jure, c'est le titre de ce qui n'est pas un album du chat, mais un livre de souvenirs, tous très drôles. On parle de votre famille, de vous, des grands artistes que vous avez rencontrés, de ces gens qui vous interpellent parfois dans la rue, des grands moments de solitude aussi, oui. De votre vie parfois. Mais d'abord, on a décidé de parler du chat, d'un animal que vous connaissez bien, avec Mathieu Pelletier, notre philosophe, qui se demande si finalement les chats ne sont pas les meilleurs philosophes du monde. Vous avez donc creusé cette question, Mathieu. Les chats sont-ils des animaux philosophiques ?
Et oui, je dois vous dire qu'en commençant mes recherches sur les chats et la philo, je n'aurais jamais imaginé que cet animal avait autant fait couler d'encre chez mes collègues. Et c'est vrai que cette espèce fascine les humains. Les réseaux sociaux en attestent puisqu'on y trouve absolument des chats partout. Les chats sont de véritables stars sur Internet. Impossible de passer aujourd'hui à côté des vidéos de chats ou des mèmes qui leur sont consacrés. Et puis surtout, il semblerait qu'il y ait quelque chose dans la personnalité du chat qui nous interpelle, qui nous fascine également. À l'inverse du chien, le chat nous semble peut-être plus libre, plus proche d'une forme de grâce, de souplesse qui nous fait souvent défaut.
Et cette attitude si particulière des chats, est-ce que ça peut nous faire réfléchir au sens de la vie ?
Figurez-vous que plusieurs ouvrages ont traité des chats sous l'angle philosophique, et c'est notamment le cas d'un livre sorti en 2020 du philosophe américain John Gray, intitulé Feline Philosophy, Cats and the Meaning of Life, en français donc Philosophie féline, les chats et le sens de la vie. Alors John Gray remarque notamment que les humains et les chats ont un rapport en fait très différent au bonheur. À côté du chat, l'homme en fait semble avoir une existence angoissée. Il explique que chez l'humain, en fait, le bonheur est un état qu'il nous faut toujours conquérir, comme si c'était le résultat d'une quête à laquelle on n'arrivait jamais. Alors que chez les chats, le bonheur semble plutôt être un état par défaut. John Gray dit ceci, « Les chats sont heureux d'eux-mêmes, tandis que les humains sont heureux en s'évadant d'eux-mêmes. Les chats ne planifient pas leur vie, ils la vivent comme elle vient. » Si les chats pouvaient comprendre la quête de sens de l'homme, ils ronronneraient de plaisir devant son absurdité. La vie d'un chat lui suffit. Les humains, en revanche, ne peuvent s'empêcher de chercher un sens au-delà de leur vie.
On décrit pourtant souvent le chat comme un animal égoïste, Mathieu. Est-ce que vous avez des infos sur le sujet ?
Oui, John Gray note que les chats semblent être amoraux. Je cite, « Ils n'obéissent à aucun commandement, ils n'ont aucun idéal, ils ne montrent aucun signe de culpabilité ou de remords, pas plus qu'ils ne s'efforcent d'être meilleurs qu'ils ne sont. » Fin de citation. Alors que nous, pauvres humains, nous sommes toujours à nous demander comment nous comporter, comment être avec les autres. Le chat, lui, semble simplement être lui-même sans aucune forme d'altruisme. Mais cette absence d'altruisme, fait remarquer le philosophe, ne signifie pas l'absence de plaisir pris à la compagnie des autres, et des humains en particulier. Justement, ils nous font du bien par leur présence, mais c'est une présence libre, sans contrainte, qui peut disparaître aussi rapidement. Leur affection est fragile, mais en même temps, du coup, elle est honnête. On sait que le chat ne fait pas semblant, il ne cherche pas à vous faire plaisir, et donc s'il reste, c'est parce qu'il veut être avec vous. Et ça, c'est très gratifiant pour nous les humains. Tout est clair et limpide dans l'amour félin. Pas de fantasmes, pas d'illusions, pas d'idéalisation. En fait, tout le contraire des relations affectives humaines.
Est-ce qu'on pourrait finalement, sur certains aspects, Mathieu, s'inspirer du chat pour mener nos vies ?
Eh bien oui, en tout cas, selon John Gray, selon qui nous avons beaucoup à apprendre des chats. Il dresse ainsi plusieurs enseignements que nous pourrions apprendre d'eux pour être heureux. L'un des conseils, par exemple, c'est d'en finir avec cette volonté de persuader les autres. Finalement, le chat, il vit la vie qu'il veut mener sans demander son avis à personne. Et nous, nous l'acceptons tant en fait la vie du chat et ses choix nous apparaissent comme relevant de l'évidence. Le chat nous apprend aussi une certaine indifférence aux autres qui peut se transformer en gentillesse dans la mesure où justement le chat ne projette rien sur les humains dont il n'en attend pas grand-chose. Et puis s'agissant du bonheur, Gray explique qu'il nous faut arrêter de le considérer justement comme l'objet d'une grande quête mystérieuse qui serait toujours au-delà de nous. Non, à nous de vivre un bonheur de chat, cette sorte de bonheur par défaut, cette joie d'être sans objet. Et ça semble être un pas trop mauvais programme.
En effet, merci Mathieu Pelletier. Une joie d'être sans objet, Philippe Geluck. Ça vous parle ?
Bon matin. Oui, mais alors, je me disais qu'en fait, l'hippopotame aussi, il vit tranquillement dans sa mare, il est heureux.
Je connais moins l'hippopotame, c'est vrai.
Moi, j'ai fait un petit peu le croisement entre le chat et l'hippopotame, vu la physique du mien. Mais ce qui me frappe, c'est que le chat est évidemment... C'était passionnant, votre chronique. Le chat est ce qu'on appelle un animal domestique, parce qu'il vit avec les humains, mais... domestique, mais libre. Il n'est pas asservi à nous. Le chien, lui, il s'assied quand on le lui dit, il va chercher la babale quand on le lui intime, tandis que le chat nous dit, va la chercher toi-même.
Ouais. Et c'est ce côté libre qui vous a inspiré, vous, Philippe Geluck, ou c'était un chat parce que c'était plus joli un chat ?
Au départ, c'est parce que c'était plus joli un chat. et après, je me suis dit, mais au fond, et j'en ai fait un humain, finalement, parce que c'est un humain avec un masque de chat, ou un chat qui... contrairement à ceux que tu décrivais, un chat qui réfléchit au sens du monde et en ce sens, il est humain.
Vous avez eu, vous, des chats, Philippe
Geluck ? Oui, depuis toujours. Le premier de ma vie s'appelait Passepartout. Il était tellement gros qu'il passait pas... c'est mon premier jeu de mots de ma vie. Il passait pas dans des portes entrouvertes. Il passait la tête et puis le reste ne passait pas. Et j'ai dit un jour, regardez, il s'appelle Passepartout et il passe nulle part. Ça a fait rire tout le monde et c'était parti.
Magnifique. On va vous retrouver évidemment plus longuement juste après Gene Autry, puisque quand même, c'est bientôt Noël. Arrivez de vous déshabiller chez le médecin et de réaliser à cet instant précis que vous avez mis un slip léopard bien ridicule. Avez-vous déjà fait un rêve dans lequel vous êtes tout nu dans un lieu public alors que tout le monde est habillé? Eh bien, ces anecdotes sont arrivées dans la vraie vie à notre invité de ce matin et il a décidé de tout nous raconter, y compris ce genre de moment gênant. Tout est vrai, je le jure, c'est le titre de votre nouveau livre, donc Philippe Geluck. Alors, je sais pas si tout est vrai, mais en tout cas, tout est drôle dans ces anecdotes. Parfois aussi, c'est touchant. Il y a des souvenirs d'enfance, des histoires abracadabrantesques qui vous sont arrivées à vous, à vos amis, célèbres ou anonymes. Il y a quelques indiscrétions aussi. Vous payez bien la tête d'Alain Delon, d'ailleurs. Et en fait, en vous lisant, on a l'impression d'être assis à table autour d'un bon repas avec vous, que vous nous racontez tout ça comme on raconte à ses amis. Alors, bon, on va commencer avec l'anecdote de vous tout nu dans un lieu public. Peut-être comme ça, c'est fait. Comme ça, on a évacué le sujet.
Oui.
maintenant que j'ai commencé à en parler, en plus, nos auditeurs veulent savoir, Philippe, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, vous avez dit, je pense, tout est vrai. Enfin, je le pense. Non, tout est vrai dans ce que je raconte, y compris cette histoire-là. Nous passions nos vacances dans un village naturiste, je tiens à le préciser. J'étais pas dans un centre Leclerc au milieu de la France. Et un jour, faisant mes courses, le temps s'était rafraîchi en fin de journée. Et c'était un village naturiste où, disons, c'était pas non plus des règles absolues. Les adolescents qui voulaient porter un t-shirt le pouvaient. Et ceux qui avaient froid pouvaient revêtir un habit. Et donc, en fin de journée, le temps se couvre. Ma chérie rentre au chalet avec les enfants, qui étaient petits. Et je dis, je passe faire les courses à la supérette. Avant de rentrer, c'était une supérette qui faisait partie du village naturiste, je tiens à le préciser. Et là... juste vêtu de mes baskets, je prends un chariot, je fais mes courses, comme je le faisais tous les jours. Seul le boucher et les caissières étaient habillés dans cet établissement. Mais tous les clients étaient nus pendant toute la journée. Et donc je me retrouve là, je fais la queue à la caisse, et je réalise à ce moment-là que je suis le seul type complètement à poil, puisque comme il faisait froid, tout le monde s'était rhabillé, et moi qui ne suis pas frileux, j'étais resté dans le plus simple appareil. Personne ne me regardait de travers, puisqu'on était dans un village naturiste.
Oui, ça c'est merveilleux.
Mais la situation était particulière.
Est-ce que du coup, vous ne faites plus ces rêves-là ? Ces rêves où on se retrouve tout nu dans des circonstances...
Exactement. Ça m'a aidé dans les rêves que l'on a tous faits. J'avais rêvé dans ma jeunesse un jour me retrouver garde du midi complètement à poil avec des gens habillés autour de moi, ce qui n'est pas arrivé dans la vraie vie. Et depuis que ça m'est arrivé dans ce village naturiste, je ne suis qu'habillé dans mes rêves.
Alors je vous promets qu'après on passe à des anecdotes situées au-dessus de la ceinture, mais j'ai quand même cité l'histoire du slip léopard, donc je vais en parler aussi. Vous avez dessiné et édité, j'explique la situation quand même, vous avez dessiné un slip du chat qui a été vendu à 200 exemplaires, numéroté, signé, et puis vous en aviez gardé quelques-uns pour vous et votre famille, pour vous amuser un matin. Vous en enfilez un par mégarde, vous aviez oublié que vous aviez un rendez-vous pour une radio de la colonne vertébrale, un rendez-vous pour lequel vous deviez donc vous dévêtir. Et arrive ce qui devait arriver. Vous vous retrouvez en slip léopard devant un médecin. Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous vous en rendez compte? Est-ce que vous essayez de vous justifier, ce qui parfois peut être pire, ou bien est-ce que vous assumez et vous restez naturel?
J'ai totalement assumé. Il y avait le médecin, son assistante et deux infirmières pliées en deux de rire, évidemment. Et c'était à la clinique d'Otigny et j'ai dit « Bonjour, mon nom est Tarzan. » Et je viens pour une radio de la colonne et tout s'est bien passé. Et merci d'en prendre des nouvelles, mais ma colonne vertébrale va bien.
Alors, on traverse votre vie hein, de l'enfance jusqu'à aussi vos ancêtres. D'ailleurs, vous avez découvert l'origine incroyable de votre nom. Et ça, c'est vraiment une histoire merveilleuse. Racontez-nous, parce qu'il y a de la magie là-dedans.
Alors, c'est un généalogiste français qui, pour une émission, je ne sais plus laquelle, avait remonté dans la famille Gueluc, voir l'origine de mon nom, voir l'origine géographique et... comment on appelle, nomographe, je ne sais pas, enfin du nom. Et il est arrivé dans une petite ville de Hollande, où il a retrouvé un ancêtre, je crois, au XVIe ou XVIIe siècle, qui s'appelait Jacob Gueluc, et qui habitait dans une petite ville qui s'appelait Kattendijk, qui existe toujours, la digue des chats.
Incroyable.
Alors, je n'y suis jamais allé, mais je compte m'y rendre bientôt pour vérifier s'ils sont tous chauves avec des lunettes rondes là-bas, on ne sait jamais. J'ai peut-être des cousins inconnus qui m'attendent avec impatience.
Par contre, vous n'êtes pas le seul Gueluc Philippe. Il y a un Congolais qui s'appelle Gueluc Philippe dans ce sens-là. Mais ce qui est drôle, c'est la manière dont vous l'avez découvert.
Alors, j'ai reçu un jour un mail en disant, voilà, je vous annonce la... j'ai appelé mon fils Coco Bazalidadi, je connais plus le nom par cœur, Gueluc Philippe. Et il est né pendant l'éruption d'un volcan dans notre région. La maman va bien, le petit va bien et tout. Et... une amie belge m'a appris qu'il n'était pas le seul et qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Philippe Gueluc dans son pays. Et donc, je vous l'écris pour vous le dire. Et alors, je lui ai répondu que j'étais très touché par cette démarche. Je ne sais pas comment ce nom est arrivé là-bas. Et en tout cas, je lui ai souhaité tout le bonheur du monde à ce petit bout. Et je vais d'ailleurs bientôt prendre de ses nouvelles. Et j'ai ajouté qu'il était, je l'espère, né sous une bonne étoile, puisque j'apprenais à peu près dans ces années-là aussi que un astronome amateur avait baptisé un caillou qui vole dans l'univers et qu'il découvrait, il l'avait baptisé de mon nom.
Oh, c'est mignon.
J'espère que ce truc n'arrive pas un jour sur la Terre, parce que, imaginez...
Peut-être que s'il retombait sur la Kattendijk, alors ça, ce serait incroyable.
Ça serait bien, mais personne ne serait là pour raconter l'histoire ensuite.
Ah, parce qu'il est gros?
Oui,
ah,
il fait des kilomètres de long.
Ah non, alors on va éviter.
Non, ce serait les deuxièmes dinosaures.
Mathieu Pelletier, vous avez une question pour Philippe Gueluc.
Oui, ça ne va peut-être pas vous rajeunir, mais j'ai des souvenirs, moi, du chat quand j'étais enfant, parce qu'on était des grands fans à la maison, et j'ai un souvenir très particulier d'un énorme fou rire avec ma mère dans la cuisine à propos d'une de vos cases, et je crois que je m'en souviens. C'était le chat, je pense, qui disait quelque chose comme « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est mon avis, et je ne vois pas pourquoi je le changerais. » Et avec cette phrase, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça a fait mouche, on était écroulés de rire. Et c'est très chouette parce que je trouve dans l'humour, je suis aussi un peu passé par cette case de l'humour, c'est très difficile de parler à tout le monde. Et je pense que le chat, il a un humour justement qui essaye de ne pas cliver et qui peut faire rire en même temps le petit garçon que j'étais et ma mère en même temps. Est-ce qu'il y a peut-être dans votre démarche cette volonté ou c'est quelque chose qui s'est fait plutôt naturellement?
Ça s'est fait naturellement. Mais ouais. À l'époque, le chat est né pendant que j'animais une émission que tu n'as peut-être pas connue qui s'appelait Lollipop. Mmh. Je ne sais pas, je ne situe pas toujours les âges, mais...
J'ai 40 ans.
Oui, ça fait, c'est terrible d'avoir des gens de plus en plus vieux qui me disent « Je vous suis depuis que je suis tout petit ».
La reine Mathilde regardait Lollipop, par contre.
Oui, quand elle était petite.
Ah oui.
Et elle a ajouté « C'est parce qu'on n'avait que la RTBF à la maison ». J'ai dit ça, c'était peut-être pas utile à me dire. Mais pour revenir à ce côté, le chat s'adresse à tous, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu.
D'accord.
Sauf qu'à l'époque, à Lollipop, on s'adressait aux enfants comme à des adultes ou comme à des copains, et que je vois pas trop pourquoi il faut parler gna 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 à des enfants, et puis plus sérieusement à des adultes. Et le chat a peut-être adopté cette méthode, et ce qui est touchant et frappant, c'est des témoignages comme le tien, et aussi qu'aujourd'hui, il y a des jeunes lecteurs de 10-12 ans qui viennent vers moi tout fiers en disant « J'ai déjà lu deux albums de chat, j'adore, etc. » Donc j'ai l'impression que ça passe les générations.
Ouais. Alors moi j'ai une anecdote, 100% inédite et véridique, qui n'est pas encore dans votre livre, Philippe Gueluc, et pour cause, hein, vous ne saviez pas qu'elle serait importante. En 2009, ouais. Vous avez suggéré à Didier Reynders quelque chose. Vous avez suggéré à Didier Reynders de jouer à la loterie. Wow. C'était dans un entretien croisé paru dans Trends Tendance. Vous lui demandez, je cite... Au fond, Didier, vous n'avez jamais pensé à jouer le budget de l'État à la roulette, point d'interrogation. Et Didier Reynders vous répond, non, mais on a déjà pensé sérieusement à des systèmes qui existent vraiment dans certains pays asiatiques. Alors Philippe Gueluc, est-ce que vous avez l'impression d'être à l'origine d'un scandale ?
Mais peut-être, j'ai relu cette interview, elle est apparue ces jours-ci, elle date de 2009, donc d'il y a 15 ans, et je me dis qu'avec ce que je lui suggère là, peut-être que je lui ai mis une idée en tête et qu'il l'a utilisée d'une autre façon. Il y a, si mes souvenirs sont bons, je lui dis, le budget de l'État à la roulette. Il me dit oui, mais à condition de gagner. Et j'ajoute, mais ne mettez pas tout sur un seul numéro. Il faut augmenter ses chances de gagner. Ah non, ce sera incroyable. Il faudrait pouvoir rentrer dans sa tête et savoir exactement à quand remonte cette idée.
Ben, peut-être qu'il s'exprimera sur le sujet, on va attendre d'avoir l'info. En tout cas, vous avez croisé beaucoup de célébrités dans votre vie, Philippe Gueluc, pas seulement Didier Reynders, évidemment.
Alain Delon aussi.
Notamment sur le canapé de Michel Drucker, évidemment. Hein. Il y a des anecdotes dans ce livre sur vos rencontres avec Jacques Chirac, Aznavour, Monica Bellucci, Francis Ford Coppola. Mais mes préférés, ce sont les anecdotes sur Alain Delon. Vous vous foutez quand même bien de sa gueule. Et pourtant, vous racontez que vous dînez avec lui. Et donc, ma question, c'est est-ce que Alain Delon aimait bien qu'on se moque d'Alain Delon ? Ces anecdotes, elles ne disent pas vraiment si vous osiez vous foutre de lui.
Mais j'ai attendu son décès pour publier le livre, vous l'avez bien remarqué. Non, il était... Il y a d'ailleurs la lettre que je lui lis sur le canapé de Michel Drucker qui a beaucoup circulé après le décès de l'acteur, dans laquelle je me moque gentiment de lui et de son statut de demi-dieu. Oui, ça le faisait rire, mais je ne suis pas certain qu'il comprenait tout vraiment comme nous. C'est-à-dire que lorsque je lui demande un autographe pour Serge, mon coloriste, qui me suppliait d'obtenir, il dit le seul autographe que je voudrais, c'est celui d'Alain Delon. Je demande à Delon, il dit avec plaisir, je lui tends le carton, il écrit, je dis, mais c'est juste pour Serge. Et il dit Serge avec S. Je dis oui. Et il écrit pour Serge's, avec S au pluriel, à la fin aussi. Donc, je me dis, est-ce qu'il a... Mais il n'était pas comme tous les autres. Quand je le vois pour la première fois, je lui dis, je vous admire beaucoup, et il me répond, comme je vous comprends. Alors, je ne sais pas s'il était sérieux, si c'est lui qui se fichait de moi, mais en tout cas, c'est des souvenirs... inénarrable.
Oui, il y en a trois comme ça avec Alain Delon. En fait, ce sont des anecdotes que vous pourriez absolument raconter dans un spectacle, Philippe Gueluc. Vous avez longtemps été comédien en plus. Est-ce que vous auriez envie de remonter sur scène ?
Alors, je l'ai fait il y a une douzaine d'années avec un seul en scène dans lequel j'avais demandé à ma fille de m'accompagner à certains moments. Ça avait fait un carton. Et à un moment, je me suis arrêté. Et on m'a proposé de le jouer à Paris, ce que j'aurais adoré faire. Et là, il y a ma chérie qui m'a dit, mais tu es fou. Déjà, tu travailles de l'aube au crépuscule. Tu n'arrêtes pas de bosser. Si en plus, le soir, tu pars au théâtre pour jouer un spectacle et puis rentrer à 11h30 minuit, on ne se verra plus du tout. Et j'ai entendu son argument et donc j'ai renoncé à cette troisième carrière sur scène.
Et votre chérie Dani, elle est très présente aussi dans ce livre, hein. C'est très touchant, vous parlez de ses yeux, vous parlez... Ben voilà, il y a beaucoup d'anecdotes d'amour aussi dans ce « Tout est vrai, je le jure » sorti chez Casterman. Un très beau livre, très drôle, touchant aussi. Merci Philippe Gueluc d'avoir été avec nous ce matin.
Merci les amis.
Merci Mathieu